Luc 2, versets 40 à 52, page 662. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui, comme c'était la coutume pour cette fête. Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas, et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Ils les écoutaient et les interrogeaient. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes.
Alors, voilà ici le seul récit qu'on a de l'adolescence de Jésus. Et on prend donc la suite dans Luc, hein, dans notre étude dans l'évangile de Luc. Et c'est le seul récit entre les premiers mois de la vie de Jésus, Jésus comme nourrisson, et ses 30 ans. Personnellement, ma première réaction quand j'ai lu ce texte, c'était la perplexité. C'est la première fois dans l'évangile où Jésus est actif et non plus passif. Et ce texte est en rupture avec ce qu'on a vu précédemment au niveau du style, au niveau du contenu. On a vu précédemment dans les premiers chapitres trois chants, trois magnifica. Et là, on est vraiment dans le factuel, dans le récit, dans ce texte. Et l'impression, c'est qu'on pourrait presque retrouver ce récit dans la rubrique « Faits divers » d'un journal. On pourrait imaginer comment ça pourrait apparaître dans un journal aujourd'hui. Un adolescent disparaît, il est retrouvé dans une église 3 jours plus tard. Il déclare à ses parents que Dieu est son père. Comment ce récit colle avec ce qu'on sait de la personne de Jésus ? Est-ce qu'il ne serait pas en train de faire une impression est-ce qu'il ne serait pas en train de faire une crise d'adolescence? En tout cas, pour le moins, il semble faire preuve d'insolence envers ses parents. Mais ça ne colle pas avec sa sainteté, avec la sainteté de Jésus révélée dans le reste des Écritures. Cela ne colle pas avec sa nature, qui est sans péché. Et ce n'est pas l'objectif de Luc de nous laisser ainsi dans la perplexité. On a lu au début de son évangile que son objectif, c'est de transformer notre incrédulité, notre perplexité, en confiance. Il va donc falloir aller gratter plus loin que la surface dans ce récit pour nous demander, mais qu'est-ce qu'a voulu nous montrer Luc dans ce passage? Et si on creuse, on découvre qu'au fond, ce n'est pas Jésus qui est ici en crise, dans sa transition entre enfance et âge adulte. Ce serait plutôt ses parents qui sont en crise dans leur compréhension de qui est Jésus, de sa nature, de sa mission. Et derrière les parents, finalement, c'est nous aussi qui sommes en crise en découvrant toutes les conséquences concrètes de la divinité et à la fois de l'humanité de Jésus, en crise parce que nous avons besoin finalement de temps pour digérer toutes les conséquences du divin qui s'est incarné la nuit de Noël Et finalement, si on a besoin souvent de temps pour digérer le repas de Noël, eh bien, nous avons besoin de bien plus de temps pour digérer les conséquences cosmiques de la naissance du Christ, de l'apparition du divin en l'homme. Voyons donc comment arrive cette crise. On voit d'abord au début du passage, et c'est souligné, la piété de Joseph et Marie, qui chaque année montent à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et ce n'était pas un petit voyage. Cela demandait 3 à 4 jours de marche pour aller de Nazareth à Jérusalem, soit 130 kilomètres. Et c'était de la montagne, de la moyenne montagne. C'était des chemins escarpés, rocailleux. Et puis, on pouvait également croiser des brigands. Autant dire que c'était un sacrifice de se déplacer à Jérusalem tous les ans, même si on voit que c'était la coutume. En effet, il est prescrit dans le livre de Deutéronome que les hommes devaient se présenter à une fête à Jérusalem au moins une fois par an. Et comme l'a relevé Kif la semaine dernière, dans le texte de la semaine dernière, il y a 3 fois conformément à la loi. Et de nouveau, nous voyons en Marie et Joseph un couple pieux et obéissant, soucieux de se conformer à la loi de Dieu et même d'aller plus loin, puisque les femmes n'étaient pas obligées de monter avec leur homme pour le pèlerinage à Jérusalem. Et pourtant, donc, Marie y monte avec Joseph. Jusqu'ici, tout va bien, donc. Marie et Joseph restent une semaine à Jérusalem, le temps de la fête de la Pâque. Puis vient l'heure du retour. Ils repartent, mais Jésus reste derrière à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Alors, on peut se demander comment est-ce que c'est possible qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Les gens se déplaçaient à l'époque en famille, en tribu, en caravane. Et on peut imaginer différents groupes dans cette caravane le long du chemin. Et les parents pouvaient penser que Jésus marchait avec d'autres membres de la famille un peu plus loin. Personnellement, moi, ça m'est arrivé au Pays de Galles. Quand j'étais à peu près du même âge, on a fait un arrêt en famille à une plage. Et puis au moment du départ, je traînais derrière, m'amusant sur les rochers. Et la famille était dans 3 voitures séparées. Et puis donc, elle est repartie sans moi. Et du coup, personne ne s'est inquiété, pensant que j'étais dans une autre voiture. Donc j'ai attendu au bord de la route. Donc je ne me rappelle pas très bien, mais ça devait être peut-être pendant une demi-heure, quelque chose comme ça. Et j'ai finalement été récupéré. Mais là, manifestement, c'est beaucoup plus long. Ici, c'est clair que c'est beaucoup plus long. Puisque les parents font une journée de route, soit environ 30 à 40 km avant de s'apercevoir que Jésus manquait. Ils rebroussent donc chemin et le cherchent pendant 3 jours à Jérusalem. On peut imaginer leur angoisse, l'angoisse des parents devant un enfant disparu. Cherchant partout, dans toutes les petites ruelles de Jérusalem, avant de se diriger en dernier recours vers le temple. Et là, ils trouvent Jésus au milieu des maîtres de la loi, les interrogeant, les écoutant. Et là, à ce moment-là, on peut imaginer le papa ne sachant que dire. La maman, comme souvent, est la première à s'exprimer et exprime son angoisse. « Mon enfant, pourquoi as-tu agi avec nous ainsi ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » On a du mal à discerner ensuite si la réponse de Jésus est donnée simplement sur le ton de la surprise ou également sur un ton de reproche. « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Alors, on peut avoir une phase de perplexité devant cette réponse. Jésus est-il désobligeant vis-à-vis de ses parents qui le recherchent depuis 3 jours ? Pourquoi me cherchez-vous ? Jésus semble bien être resté à Jérusalem volontairement, sans que ses parents le sachent. Mais ensuite, il affirme ce qu'aucun autre juif n'aurait jamais osé affirmer. Il affirme sa filiation avec Dieu. Jésus appelle Dieu son Père. Jésus s'affirme ainsi comme pleinement divin. Il ne serait jamais venu à l'idée d'aucun juif à l'époque d'affirmer que Dieu serait son Père. Jésus est donc pleinement divin, c'est ce qu'on voit ici. Il appelle Dieu son Père. Et sa réponse doit donc nous interroger sur la nature de Jésus. Et si on va dans la rue, si on interroge les gens, sur leur demandant qui est Jésus pour vous, la plupart des gens vont sûrement dire qu'il est un sage, un philosophe ayant mené une vie exemplaire et paisible, avec des paroles, plein de paroles de sagesse. Mais si on voit, on croit que Jésus est simplement un sage, un philosophe paisible, sa réponse choque. Soit Jésus est un fou qui se prend pour ce qu'il n'est pas, fils de Dieu. Soit Jésus est cynique, il se moque de ses parents, il est menteur, il affirme quelque chose que lui-même ne sait qu'il n'est pas. Ou soit il est véritablement fils de Dieu et il est en droit alors d'appeler Dieu son Père. Mais en tout cas, il n'est pas simplement un philosophe rempli de sagesse. Il affirme donc que Dieu est son Père. Après tout, ses parents, et en premier lieu Marie, ne devraient pas être étonnés de sa réponse. Au chapitre 1, l'ange lui dit que le saint homme sera appelé fils de Dieu. Mais Marie a beau donner une réponse de foi face à l'affirmation de l'ange au chapitre 1, la réalité de la divinité de Jésus est certainement beaucoup plus difficile à encaisser, à digérer dans tous les événements de la vie réelle. Il y a des réalités tellement énormes pour nous qu'on a du mal à s'y faire. Et souvent, on utilise le mot, la phrase « j'ai encore du mal à réaliser ». Parce qu'on a besoin souvent de temps face à des événements pour les digérer au niveau émotionnel, au niveau de la pensée, au niveau de l'évaluation de toutes les conséquences de cet événement sur nos vies. Alors voilà l'état de Marie, et nous allons reparler de Marie plus tard. Jésus, lui, de son côté, lui est pleinement conscient de sa nature divine, de sa filiation avec le Père. Voilà donc les premières paroles de Jésus, recensées dans l'évangile de Luc, et ces premières paroles sont pour son Père. Et on va voir ensuite le début du ministère de Jésus, qui commence aussi par le Père lui-même qui déclare à Jésus « Tu es mon fils ». Et on voit aussi dans les dernières paroles de l'évangile de Luc que là aussi, ces dernières paroles sont pour le Père, Jésus qui parle de Dieu comme son Père. On voit donc dans cet évangile qui est mis en avant la relation filiale de Jésus avec son Père, cette relation filiale qui est l'alpha et l'oméga dans cet évangile de Luc. Et ce que nous voyons là aussi, c'est que Jésus est pleinement conscient de sa divinité dès son plus jeune âge. Mais parallèlement, ce qui peut nous laisser perplexes une deuxième fois dans le passage, c'est de constater la pleine humanité de Jésus, qui est montrée par le fait qu'il était obéissant vis-à-vis de ses parents, Joseph et Marie, c'est souligné dans le passage, qui est montré par le fait qu'il a dû apprendre et grandir en sagesse, ce qui sous-entend qu'il était au départ ignorant comme un petit enfant ordinaire, qu'il a dû entrer dans un processus d'apprentissage. Et on voit donc également dans ce passage beaucoup d'indices sur la pleine humanité de Jésus, Jésus pleinement humain. C'est une chose d'intégrer que le fait que Jésus soit pleinement Dieu, c'est autre chose de réaliser qu'il est tout à la fois pleinement homme. Pourquoi Jésus reste à Jérusalem, finalement ? Il le dit parce qu'il faut qu'il s'occupe des affaires de son Père. Il est donc conscient d'avoir une mission à accomplir pour son Père. Mais pour être capable de remplir cette mission, eh bien, il doit apprendre, il doit écouter. On voit qu'il est resté au temple pour questionner les docteurs de la loi, pour apprendre d'eux, pour les écouter. La lettre aux Hébreux nous dit que Jésus était semblable en tout point à l'homme, hormis le péché. Ça implique donc qu'il n'était pas omniscient dans sa nature humaine, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas tout, mais qu'il a accepté les limitations de la nature humaine. Il a dû donc entrer dans un processus d'apprentissage pour apprendre la Torah, pour apprendre les textes de l'Ancien Testament, pour grandir en sagesse. Et si on regarde le verset 52, on voit que Jésus grandissait en sagesse. Jésus était donc pleinement conscient de sa filiation divine, mais devait se soumettre à un processus d'apprentissage. De même qu'il a certainement appris auprès de son père, Joseph, les gestes du charpentier, affiné sa technique, affiné les gestes pour maîtriser le métier. Eh bien, il a également dû apprendre les textes de l'Ancien Testament, affiner sa connaissance en interrogeant les maîtres de la loi, être à leur écoute. Jésus n'en est pas encore à faire les questions et les réponses, comme plus tard dans son ministère. Mais il pose des questions. Mais parallèlement, on voit aussi que les maîtres de la loi étaient stupéfaits de sa sagesse. Jésus devait néanmoins mûrir, grandir en sagesse, et ce jusqu'à ses 30 ans. Et ensuite, nous allons voir dans la suite de l'évangile, le fruit de cette sagesse qu'il a accumulée, de cette connaissance de la Bible qu'il a, puisqu'au début de son ministère, Jésus est tenté dans le désert. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Eh bien, par trois fois, face aux tentations du malin, eh bien, il sort des pans de l'Écriture qu'il a assimilés au fil des années. Il répond par trois fois en citant des textes du livre des Deutéronomes. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer personnellement de tout ça? Eh bien, certainement l'importance de connaître soi-même la parole, la Bible, pour mieux se connaître soi-même, pour mieux connaître Dieu. Si Jésus lui-même est passé par ce stade d'apprentissage, de maturation pour grandir en sagesse au pied des enseignants de son époque, est-ce que ce n'est pas le cas pour nous à plus forte mesure? Et il n'est pas moins étonnant d'avoir devant nous donc Christ qui devait se soumettre à l'apprentissage. Devant donc le double choc de la révélation de Jésus divin et de Jésus humain, dans ce texte, attardons-nous donc maintenant sur la réaction de Marie. Et là, nous voyons une Marie qui est pleinement concernée par les événements, les paroles de Jésus. Et Marie ne reste pas à sa perplexité, si on lit le verset 51. Sa mère gardait précieusement tous ces événements dans son cœur. Sa mère gardait précieusement tous ces événements dans son cœur. On trouve là peut-être un écho des paroles de Moïse dans la lettre de Deutéronome. Après que Moïse ait énoncé les commandements, il partage ce que doit être l'attitude du peuple face à ces paroles qui doivent être données. Et voilà ce qu'il dit. « Les paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras. » Et quand tu te lèveras, tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Marie garde donc les paroles et les événements relatifs à Jésus, comme elle garde certainement la Torah, les écrits de l'Ancien Testament, dans son cœur. Et cela sans comprendre encore totalement la mission de Jésus. Alors ça ne veut pas dire que la foi de Marie est aveugle, qu'elle accepte tout sans comprendre, mais Marie ne renonce pas à comprendre les paroles de Jésus. Jean Calvin compare sa réaction à une semence qui est plantée dans la terre, ces paroles, ces événements de Jésus, comme une semence plantée dans la terre qui est appelée à mûrir, qui est appelée à grandir. Elle sème au plus profond d'elle-même les paroles et les événements de Jésus. Et de même que Jésus s'est soumis à la condition humaine et a grandi en connaissance, en maturité, de même Marie, perplexe devant la réponse de Jésus, devait garder cette parole et la méditer pour arriver à une meilleure compréhension de la nature de la mission de Jésus, pour l'intégrer émotionnellement, pour raisonner sur toutes les conséquences de cette double nature humaine et divine du Christ. Alors certains commentateurs sont critiques vis-à-vis de la réaction de Marie, sa perplexité au départ. Comment ne peut-elle pas comprendre alors que l'ange a révélé à Marie la nature divine de l'enfant ? Mais ces critiques sont peut-être un petit peu déconnectées de nos limitations humaines qui nécessitent du temps pour intégrer des réalités qui nous dépassent. Et là, il y a cette perplexité devant la nature à la fois divine et humaine de Jésus. Et cette perplexité, il y en a eu également durant les premiers siècles de l'Église. L'Église a dû lutter pendant des siècles et des siècles pour s'accorder sur une formulation concernant l'identité de Jésus. D'un côté, certains avaient du mal avec le fait que Jésus soit Dieu et ne voyaient en lui qu'un homme. De l'autre côté, certains avaient du mal avec le fait que Jésus soit homme et pensaient donc, comme les Docètes, que Jésus n'a que revêtu une apparence humaine mais qui n'était pas pleinement humain. D'un côté, on a donc homme mais pas Dieu, et de l'autre, Dieu mais pas homme. Et ce n'est qu'au concile de Chalcédoine, en 451 après Jésus-Christ, soit plus de 4 siècles plus tard, que l'Église s'est accordée sur une formulation affirmant clairement la double nature de Jésus. Et je vais lire un extrait du concile de Chalcédoine. Nous enseignons tous unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme. Et on peut s'étonner, mais pourquoi l'Église a mis autant de temps à s'accorder sur cette formulation, alors que la Bible paraît très claire. Il n'y a rien que dans ce passage de ce matin. On voit de Jésus qui parle de son Père divin, et parallèlement, on voit donc Jésus qui apprend, qui grandit, comme n'importe quel humain, qui se soumet à ses parents. Pourquoi donc l'Église a-t-elle mis autant de temps à formuler la pleine divinité et la pleine humanité de Jésus ? Alors voilà comment le théologien Henri Blocher résume la chose. Nous oublions la part de préparation mentale, des lunettes culturelles, dans le discernement des choses claires en elles-mêmes. Il faut du temps aux hommes, quoique sincères et nés de nouveau, pour assimiler cette parole inouïe et cette œuvre est collective. Nous ne savons déplorer les déficiences théologiques de ce qui était avant, de nos prédécesseurs, qu'après avoir été leurs élèves. C'est leur labeur qui nous permet d'aller plus loin. Et pour paraphraser la lettre de Corinthiens, si la croix est un scandale pour les Juifs et pour les Grecs, l'incarnation de Jésus, l'incarnation de Dieu fait homme, l'est tout autant. Les Juifs ne pouvaient imaginer qu'un homme soit Dieu, parce que Dieu est tout autre. Dieu est tout autre. Comment pourrait-il être homme ? Les Grecs ne peuvent imaginer qu'un Dieu soit homme, car pour beaucoup, à l'époque, tout ce qui est matériel, tout ce qui est de la chair est mal, et seul est bien tout ce qui est esprit. Donc ce qui est esprit est bien, ce qui est chair est mal. Et donc impossible d'imaginer que Dieu s'incarne, se fasse chair. Bref, Dieu fait homme, c'est un immense choc à assimiler pour les cultures de l'époque. Et ce choc a été tel que l'Église a mis des siècles pour le digérer. Et quelque part, si nous nous posons moins de questions aujourd'hui, quotidiennement, enfin, dans les églises ou dans la semaine, si nous posons moins de questions sur la nature de Jésus, c'est parce que nous bénéficions de cet héritage, de cette réflexion, de cette maturation, On peut dire qu'il y a un certain consensus aujourd'hui au sein de la chrétienté sur la nature pleinement humaine et pleinement divine de Jésus. Et toute autre position va être vue comme, à juste titre, comme hérétique ou sectaire. Et on croit aussi que c'est l'action du Saint-Esprit dans ces hommes qui leur a permis d'avoir une formulation qui paraît vraiment être conforme au témoignage de la Bible. Mais on a besoin, nous aussi, comme Marie, d'ancrer ces paroles et ces événements dans ce passage dans notre cœur. Et au fond, quel est l'enjeu de réfléchir aujourd'hui à ces questions pour nous, à cette pleine divinité, cette pleine humanité de Jésus? On pourrait, par exemple, nous arrêter sur la lettre aux Hébreux qui en parle, qui en tire les conséquences, et qui nous montre que si Jésus est pleinement humain, eh bien cela veut dire qu'il peut compatir à nos faiblesses dans la tentation. Lui qui a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Jésus peut compatir à nos faiblesses par sa nature humaine. Lui, il est à l'écoute, là, dans le temple. Il est assis là, dans le temple, dans ce passage. Il est à l'écoute. Mais on voit que plus tard, il va revenir dans ce même temple. Et finalement, il va être le temple lui-même. Il va remplacer ce temple, il va être le temple lui-même. Parce que comme le note Augustin d'Hippone dans sa réflexion sur la double nature du Christ, parfaitement homme, parfaitement Dieu, comme il le note dans sa réflexion, et puis aussi sa lecture de la lettre aux Hébreux, il note que finalement, le Christ, eh bien, c'est le prêtre qui donne le sacrifice dans le temple. C'est également le sacrifice lui-même. Il remplace le sacrifice lui-même dans le temple. Et il est également lui-même le sacrifice. Il est également lui-même celui à qui est offert le sacrifice, puisqu'elle est Dieu lui-même. Il est à la fois celui qui offre le sacrifice, ce sacrifice en lui-même, et celui à qui est offert le sacrifice. Il remplace donc tout l'office du temple. Jésus est donc le médiateur parfait, l'intermédiaire parfait entre Dieu et les hommes par sa double nature. Et la conséquence qu'en tire la lettre aux Hébreux, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Luc, donc, ne veut pas nous laisser perplexes face à ce texte, mais il veut que nous inscrivions dans notre cœur les conséquences cosmiques du Dieu fait homme, du Dieu incarné, pour nous conforter dans la personne du Christ, à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Et cela afin de réaliser que Christ a le pouvoir de nous délivrer de la mort, des conséquences du péché, et de nous offrir un salut parfait en lui-même. Prions donc. Eh bien, Père, nous te remercions pour la perfection de ton plan éternel, de ton plan de salut en Jésus-Christ, cette perfection que nous voyons là. Et nous avons lu au début de ce culte, nous avons prié pour que nous soyons remplis de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et nous te prions que nous puissions grandir en sagesse, grandir dans la connaissance de nous-mêmes, grandir dans la connaissance de Dieu, et cela pour nous émerveiller devant ton plan parfait et pour pouvoir marcher d'une manière digne. Et nous te prions vraiment que nous puissions marcher d'une manière digne de toi cette année, en contemplant la parfaite humanité du Christ, en contemplant la parfaite divinité du Christ, en contemplant ton plan parfait en Jésus-Christ qui nous délivre du péché et de la mort. Et merci Seigneur pour ton plan parfait et que nous puissions nous réjouir en Jésus-Christ. Amen.